Bonjour à tous et bienvenue. Nous accueillons aujourd'hui Charles Gardou, professeur émérite en anthropologie, spécialiste du handicap. À partir d'un itinéraire anthropologique qui l'a confronté à la diversité humaine dans différents lieux du monde, Charles Gardou consacre ses travaux anthropologiques, anthropologie culturelle et anthropologie et des situations de handicap, à la diversité humaine, à la vulnérabilité et à leurs multiples expressions dont il interroge le sens au gré de situations ou de contextes toujours singuliers, en donnant à saisir leur portée universelle. Charles Gardou a fondé et dirigé, par ailleurs, la collection « Connaissance de la diversité » aux éditions RS. Et il est auteur de très nombreux ouvrages, dont certains comme « La société inclusive, parlons-en », où il dit qu'il n'y a pas de vie minuscule, « Pascal, Frida Kahlo et les autres », ou encore « Quand la vulnérabilité devient force, le handicap au risque des cultures », ou encore « Variation anthropologique, le handicap par ceux qui le vivent ». Donc quelqu'un de riche, de passionnant, et c'est tout cela que l'on parle avec notre invité Charles Gardou. Résonance, Alain Goudard, une émission mise en onde par Simon Deborne. Bonjour Charles Gardou.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci en tout cas d'être là avec nous. Et comment redonner au handicap sa dignité par la pensée, c'est un axe de réflexion et de travail auquel nous portons également un très grand intérêt dans le cadre de nos émissions et puis aussi dans le cadre de nos entretiens Invention à deux voix. Donc je vous remercie de venir ainsi nous faire partager votre regard, votre réflexion et vos questionnements aussi en la matière. Alors je voulais vous proposer de démarrer, de commencer cet entretien, Charles Gardou, à partir de ce que vous présentez comme un défi, c'est-à-dire, je vous cite d'ailleurs, situer résolument dans la pensée l'impensable et l'impensé que semble constituer le handicap, lui donner une dignité par la pensée. Fin de citation. Et pour vous, c'est un défi essentiel pour essayer de faire changer à la fois, je dirais, d'attitude, mais vous employez aussi le terme d'altitude également. Pourquoi un tel défi et pourquoi est-il nécessaire peut-être ?
Vous le savez, vous le constatez, la question toute humaine, pleinement humaine, qu'est le handicap, a été considérée dans notre culture sur fond judéo-chrétien comme une question de militance, comme une question d'engagement. Et il me semble que si c'est nécessaire autour de cette question, bien sûr, de développer une pensée humaniste, elle ne suffit pas. Il me semble que la question du handicap doit se traiter également en termes de savoir, de diffusion de connaissances, et c'est partout nécessaire. Parmi les grands défis que notre temps doit relever, je pense qu'il y a ce défi-là. Donner place au handicap dans le monde de la pensée, du savoir, de la recherche. Je suis très prudent en disant cela. Faute de quoi on pourrait penser qu'on voit là, dans le savoir, un nouveau remède à tout. Non,
surtout pas, je pense.
Dans les sombres périodes de l'histoire, des exactions ont été commises, nous le savons, au nom du savoir, et quelquefois de savoir très élaboré. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de se dire que accompagner, éduquer, suppose des savoirs fondamentaux, faute de quoi, sans le vouloir, sans le savoir, on peut distordre l'action et quelquefois nuire. Et c'est vrai dans l'ensemble des champs professionnels, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse du monde de l'entreprise, des savoirs fondamentaux sont nécessaires pour orienter et guider l'action. Ce qui, évidemment, ne varie pas en sens inverse avec l'humanisme, l'engagement nécessaire.
Bien sûr. Oui, et ça me paraît important, effectivement, de resituer tout de suite les choses à ce niveau-là, parce que, comme vous le disiez, il y a savoir et savoir, et on a eu ces ambiguïtés que vous venez de rappeler, mais effectivement, il y a aussi ce travail de fond complètement nécessaire. On rajouterait aussi à toutes les dimensions, effectivement, quand on parle des actions artistiques, par exemple, là aussi, qui est un cœur où la personne en situation de handicap peut aussi retrouver une certaine place. Si, bien sûr, on œuvre aussi dans ce sens, on peut aussi œuvrer dans un autre sens, mais en tout cas demande là aussi réflexion, formation, accompagnement de savoir, découvrir, échange de responsabilités, conscience de ses responsabilités, et en même temps tout cela demande effectivement un accompagnement de tous ceux et toutes celles qui se trouvent un petit peu mêlés dans cette approche.
Puis-je rebondir sur la dimension de la vie artistique et culturelle? Voilà une dimension qui pâtit et qui a beaucoup pâti d'une vision distordue. Ce qui amène à penser que les personnes qui vivent une situation de handicap au quotidien ne pourraient pas être des créatrices et qu'il ne s'agirait pour eux que de faire du soin, à l'occurrence de l'art-thérapie. Je ne méconnais pas les apports d'art-thérapeutes, leur dévouement et le bien fondé. Il n'empêche que par méconnaissance aussi, par absence de savoir, il y a là une réduction de l'autre à un objet de soin. Et c'est méconnaître toute l'histoire de la création dans le grand récit de l'humanité. Vous le savez, combien de créateurs, de Schumann souffrant de troubles psychiques, à Frida Kahlo, son corps brisé, ont produit, ont dégagé des forces, ont construit, des forces créatrices sur une apparente fragilité liée à des situations de maladie ou de handicap. Dans le monde de l'art et de la culture, il nous faut aussi faire une avancée assez considérable de ce côté-là, parce que nous avons encore des attitudes compassionnelles, caritatives, condescendantes. Et l'autre ne se réalise pas sous la pitié. Des miettes de pitié ne font pas une réalisation de soi, ni une occasion de se déployer pleinement. Je l'ai dit, c'est vrai dans tous les champs. C'est vrai dans le champ des loisirs, c'est vrai dans le champ du sport, c'est vrai dans le champ de l'art, de la profession. Tous les domaines de la vie sont touchés. Il me semble, et bien sûr, vous ne le verrez pas comme une péjoration de ma part à l'égard de qui que ce soit. Nous sommes, comme disait Emmanuel Levinas, nous sommes tous responsables, et nous plus que les autres. Mais il y a là une propension qui marque la culture française judéo-chrétienne à une relation qui s'est bâtie sur la compassion. Les déshérités, les pauvres, et à terme...
On arrive encore du mal à se détacher de cette vision-là.
Et ça conduit à une sorte d'invalidation dont je dis qu'elle est involontaire et inconsciente, mais en tout cas, ça conduit à ça.
D'où la nécessité, justement, quand vous évoquiez la pensée, justement, de prendre conscience et de travailler aussi à connaître les mécanismes aussi qui se sont posés et les contextes, effectivement, culturels, sociétals, qui nous précèdent et qui nous ont amenés aussi à avoir ces attitudes. Et donc, du coup, d'avoir cette prise de conscience pour se dire que là, il y a des chemins possibles aussi de réflexion haute et surtout que ces personnes puissent trouver une place complètement différente et bénéficier d'un regard non plus compatissant, mais d'individu à individu, et que chacun peut contribuer en tant que ce regard posé d'individu à individu à accéder aux mêmes choses et à pouvoir s'apporter les uns les autres en réciprocité, et que là, il y a un enjeu majeur, effectivement.
Vous-même, vous travaillez avec des artistes. Vous ne faites pas de la musicothérapie. Vous travaillez avec des artistes, créateurs, etc. Et je pense que c'est la voie. Cette voie, la reconnaissance des virtualités, des potentiels, c'est la voie aussi du droit, droit à une vie sociale, à une participation pleine et entière, et à une considération qui ne souffre pas d'exception. Faute de quoi, on serait amené à penser que ce que la vie, quand la vie advient, blessée dans un corps ou dans un esprit, il s'agirait d'une vie négligeable, d'une vie minuscule, d'une vie simplement nécessiteuse, qui n'aspirerait pas à se révéler par des désirs, par des projets, par des passions, y compris, bien sûr, dans le champ culturel et artistique dont vous êtes féru.
Alors, Ça me semble une très bonne entrée en matière, ce que nous venons de poser un petit peu ce cadre général. Je voudrais revenir peut-être aussi un petit peu dans votre propre parcours, mais aussi pour étayer ce que nous venons de dire. C'est-à-dire aussi que finalement, c'est votre approche de la démarche anthropologique qui, à un moment donné, vous a aidé à penser le handicap différemment et aller au-delà d'une situation individuelle et envisager que cette question concerne les différentes facettes finalement, ce qu'on commence un peu d'avoir dit un peu, la vie d'un groupe humain. Mais c'est quand même parce que la démarche anthropologique s'est faite jour aussi pour vous, que ça vous a permis, justement, je voudrais qu'on puisse venir sur cet aspect-là, ce qui a été déclencheur finalement d'une modification de regard et du coup l'enclenchement d'un travail de longue durée autour de ces questions.
Oui, alors... Si je retrace ma manière de traiter le handicap, je dois effectivement l'inscrire dans un itinéraire et dans une rencontre. Une rencontre, en l'occurrence, bibliographique, qui a été préalable à un voyage lointain, un temps de ma vie, puisque j'ai vécu aux îles Marquises, vous voyez, situées les îles Marquises, à 7 degrés sous l'équateur, à l'altitude des Galapagos. Ouais. Et préalablement, ce qui d'ailleurs m'a conduit à ce projet de recherche, j'avais rencontré donc un ouvrage et un auteur que vous connaissez bien, il est fameux, c'est Claude Lévi-Strauss. Et j'avais lu Triste Tropique.
Ah oui.
J'étais accroché à la pensée de Lévi-Strauss parce que Lévi-Strauss était philosophe, il est venu à l'anthropologie dans un deuxième temps. Oui. Il a travaillé sur les Indiens du Mato Grosso au Brésil. Et dans ce Triste Tropique, qui a été vraiment un moment de renversement du regard, il a montré que des populations que l'on négligeait, que l'on déconsidérait, portaient des cultures belles qu'on ne savait pas comprendre et qu'ils n'étaient pas éloignés, bien sûr, de notre humanité commune. C'est vraiment un renversement.
C'est un enjeu fondamental, c'est un renversement fort.
Ce ne sont pas des sauvages, ne sont pas des primitifs, ce ne sont pas des incivilisés. Leur culture est belle, elle leur appartient et nous devons la comprendre. Évidemment, vous allez dire, mais comment ensuite vous avez fait le passage du Code du handicap ? Eh bien, ayant donc fait mes recherches aux îles Marquises sur la culture maori, quand je suis revenu en métropole, c'est comme cela que l'on dit quand on vit dans des territoires...
Quand on vit sur les territoires français un petit peu extérieurs.
Ultramarins, puisque les Marquises appartiennent à la Polynésie française. Je me suis dit, voilà, j'ai constaté qu'il y avait très peu de travaux anthropologiques qui s'intéressaient aux situations de handicap. Et je considère le handicap effectivement comme une situation qui découle éventuellement, qui découle d'une maladie, d'une déficience, d'une lésion, d'un traumatisme. Et ce handicap conduit aussi à vivre une condition particulière. Et j'ai décidé alors de centrer mes travaux sur cette question, on pourrait dire la condition vécue par des personnes en situation de handicap qui me paraissaient effectivement assez négligées. Et du coup, à la manière un peu d'une caméra, j'ai commencé par m'intéresser à ceux qui vivaient cette situation dans leur corps, dans leur esprit, ceux qui les entouraient. C'est ce que j'ai appelé une anthropologie du très proche.
Du très proche, oui.
Parce que je ne voyais pas possible de traiter cette question...
En étant complètement extérieur à la situation.
Voilà.
Et au vécu direct aussi.
Tout à fait. Ou de manière descendante. C'est une situation qui ne s'applique, qui ne peut accepter d'être traitée à partir de grilles préétablies.
C'est ça.
Moi, j'ai vraiment considéré que le savoir que je pouvais organiser, en toute modestie, je ne pouvais que l'organiser, mais il venait d'ailleurs.
C'est ça.
Il venait, c'est ce qu'avait compris Lévi-Strauss.
C'est ce qu'il impliquait dans cette démarche, justement.
Il venait de ceux qui vivent la situation et dans laquelle on a à s'immerger pour la comprendre du dedans, sans prétention scientiste, mais simplement pour organiser ses savoirs. Et donc, j'ai travaillé avec des personnes, avec des parents, j'ai fait une quadrilogie, parents, fratrie, professionnelle.
Fratrie aussi, j'imagine. Ouais.
Dans un deuxième temps, je me suis dit, traiter la question du handicap, excusez le terme, mais vous comprendrez pourquoi je dis, en insularité, n'a pas vraiment de sens. Et du coup, je me suis vraiment intéressé à une anthropologie du handicap comme forme et expression des fragilités humaines. Me disant qu'il y avait un risque majeur de traiter le handicap comme un à côté comme une autre humanité.
Mais une nécessité de le remettre tout de suite dans cet espace commun qui est notre propre humanité, et donc du coup faisant partie de ces fragilités.
Tout à fait. Dans l'universel.
Dans l'universel.
Qui peut nous lier. Me disant que la singularité d'une situation, on ne peut pas la nier.
Bien sûr.
C'est une situation singulière, mais que ce singulier parlait l'universel des hommes. Et que nous sommes tentés, encore, de voir de l'extraordinaire là où il n'y a que de l'ordinaire.
C'est vrai qu'encore aujourd'hui, les choses ont avancé, on y viendra bien sûr dans le courant de notre entretien, entre ce que vous exposez de l'origine de cette réflexion, et puis en même temps notre aujourd'hui, de comment il est constitué autour de cette problématique, mais on est encore, même si les choses ont beaucoup avancé, dans cette part de réflexion, et de nombreux travaux sont là aussi, mais il y a encore cette vision de l'extraordinaire qui est encore là, et non plus la prise en compte de cette singularité, certes fragile, mais chacun d'entre nous et chaque humain, chaque humanité a sa fragilité, n'étant pas regardé encore sous ce prisme-là, mais encore sur ce prisme. Alors effectivement, encore notre passé, nos cultures communes, notre mémoire commune viennent encore peut-être entraver encore cette manière de penser, mais on est encore sur l'extraordinaire encore.
Alors là, vous avez tout à fait raison de souligner cela. Il y a un fait objectif au large duquel nous ne pouvons pas passer. Tout ce qui advient à la vie, donc tout le règne vivant, qu'il soit végétal, qu'il soit animal, qu'il soit humain, est frappé par la fragilité. Il y a des plantes handicapées. Voilà. Des plantes qui ne sont pas capables de faire photosynthèse et qui doivent se nourrir par des filaments souterrains qui les relient à un arbre qui les nourrit. Il y a bien sûr des animaux en situation de handicap. Et il y a naturellement des humains. Tout ce qui advient à la vie est frappé par la fragilité. Et la première fragilité qui frappe le vivant, c'est d'être mortel.
C'est ça.
Et du coup, ça redonne une toile de fond à la compréhension du handicap. Le handicap est une des formes dans la constellation des fragilités humaines.
C'est ça.
Qui souffre d'une fragilité physique, d'une fragilité
affective,
psychologique, j'en passe et des meilleurs. Et le handicap ne peut être compris
que
si on l'intègre dans cette vision. Vous voyez, ça nous renvoie. C'est pas simplement pour le plaisir d'élaborer une pensée coquette.
Bien sûr.
C'est beaucoup plus profond que ça. Ça vient remettre en cause, par exemple, les lois particularistes.
Oui.
Faut-il continuer dans notre pays à faire des lois particularistes ou faut-il faire des lois de droit commun, qui intègre systématiquement les accommodements, les accompagnements, les auxiliaires nécessaires pour les personnes qui vivent cette forme de fragilité. C'est tout autre chose.
C'est tout autre chose comme mise en forme et comme pensée, effectivement, du commun.
Et donc, peut-être faut-il penser, mais là, vous et moi, on ne dit pas dans le marc de café, que la loi de 2005, qui est encore une loi particulariste, peut-être faut-il penser que ce sera la dernière. Mais que toutes les lois de la République, au nom de cet universel qui nous lie, eh bien, comprendront, si c'est de l'éducation, si c'est de l'art, de la culture, eh bien, les paragraphes nécessaires aux accommodements à prévoir dans le cadre d'une loi de droit commun.
Ce qui changerait complètement les choses.
Vous voyez, donc, on lit ici, moi c'est mon souci permanent, vous le savez je crois, la pensée et l'action. Comment agir de manière juste, de manière cohérente, si on ne pense pas de manière juste et cohérente. Vous voyez, il y a ce lien permanent, les deux mondes ne sont pas séparés.
Et on voit bien ce défi que j'évoquais en tout début de cet entretien, l'importance de ce défi et de cette liaison fondamentale de pensée, de l'action, de l'expérimentation à la réflexion et à la pensée, nourrissant l'un et l'autre. Et là, il y a un indispensable, effectivement, quel que soit le champ, comme on le disait déjà tout à l'heure, quel que soit le champ qui comporte et qui anime les fonctionnements de notre société, que ce soit l'éducation, le haut, l'art ou quel que soient les aspects.
Ah, voyez, c'est pour ça que... Excusez-moi. C'est pour ça qu'on démarrait par là. Le savoir, le handicap est aussi une affaire de savoir. Et on l'a dit, le savoir n'est pas un remède à tout, mais c'est le meilleur moyen de lutter contre les préjugés, contre les obscurantismes,
aussi,
contre les stéréotypes et contre les distorsions de l'action. Parce que le handicap, c'est une question qui est une sorte d'éponge à préjugés. Pourquoi ? Ça, il nous faut l'expliquer. Pourquoi ? Oui. Tout simplement parce que c'est un miroir brisé. Le handicap, c'est un miroir brisé. Moi, je n'ai jamais cru que la relation à une personne handicapée, c'était la peur de l'autre. Je crois que c'est d'abord une peur de soi.
C'est une peur de soi-même. C'est une peur de soi. Qui nous renvoie, effectivement.
Je me sens infiniment fragile. Je sais que la vulnérabilité la plus extrême peut inonder ma vie à tous les instants. Eh bien, faire face à une vie fragilisée me renvoie à cette part de moi-même. Freud parlait de l'inquiétante étrangeté au fond de soi. Il y a un étranger au fond de nous.
Et c'est l'acceptation de cette étrangeté qui est difficile, mais que du coup, effectivement, l'effet du miroir que provoque la personne handicapée, du coup, fait rejaillir et encore beaucoup plus révélateur de cette propre étrangeté qui nous anime et que du coup, difficulté à la voir en face de soi.
Tout à fait. Et vous voyez, moi je crois que dans le savoir, pour reprendre un terme cher à Saint-Exupéry, il y a, si c'est pas un savoir académique, si c'est un savoir qui est né des situations humaines, eh bien, il y a une forme d'apprivoisement. Savoir, c'est briser des fantasmes, c'est briser des obscurantismes. Je prends toujours la métaphore de la porte qui s'ouvre sur une obscurité. Alors, cette obscurité, que contient-elle ? Des dangers, des ennemis, des fantômes. Si je sais, eh bien, cette fantasmagorie va diminuer et va s'estomper. C'est pour cela que j'insiste beaucoup là-dessus, mais toujours en ayant cette précaution-là, c'est une condition nécessaire, mais insuffisante. Si elle n'est pas accompagnée de l'humanisme, c'est-à-dire d'une vision sur l'homme nécessaire. Faute de quoi, c'est un savoir métallique.
Oui, voilà, c'est ça.
Et qui peut être mis...
Et qui peut lui être très dangereux à un moment donné.
Exactement.
Tout ce que l'on dit aussi, quand on évoque un peu justement cette relation à l'humain finalement, et qu'est-ce que peut-être justement la qualité de cette relation, ça m'évoque aussi un personnage aussi important, philosophe, mais qui vous a marqué aussi dans ce parcours justement d'anthropologie. Je pense à Édouard Glissant. Avec sa philosophie de la relation, par exemple, ou une nouvelle région du monde aussi, pour parler d'un de ses autres ouvrages, et pour faire un petit peu écho à ce que l'on vient de te dire, en glissant un petit peu plus loin, mais je reprends quelques propos, et il écrivait ceci, « Quand les différences du monde, dans le monde, se rencontrent, les variétés qu'elles reconnaissent, tout aussi bien se multiplient. » C'est parce que les différences, par s'ajouter et se changer, si tu peu à peu l'étends, et que nous ressentons celui-ci comme seul demeurant de cela, qui toujours bouge et change. La différence est à l'amorce vive du mouvement, et non pas l'identique ou l'identité. Je trouve que il y a un peu de cela aussi dans. Enfin, il a amené beaucoup de réflexions, beaucoup d'éclairage, je trouve aussi dans sa manière, lui aussi étant au lointain. D'approcher aussi ces questions-là et très marqué aussi de par sa culture aussi et le regard dont on évoquait tout à l'heure, la condescendance qu'il pouvait y avoir ou la négligence aussi qu'on pouvait estimer de ces cultures très éloignées de la culture occidentale. Et lui a vécu de manière très forte aussi toutes ses relations à l'autre et notamment cette philosophie en écrivant la philosophie de la relation, il parle aussi de toutes ces choses-là. Mais c'est encore une manière de l'approcher, en tout cas de mettre en évidence aussi.
Oui, moi je me suis nourri entre autres des travaux d'Édouard Glissant. Je pense particulièrement à un livre qu'il avait publié en 1996, je crois, qui s'appelle « Introduction à une poétique du divers ». Et puis bien sûr, « Tout monde » qu'il a publié un an plus tard. Alors, évidemment, Glissant, de par son origine, de par ce qu'il a vécu, son expérience de vie, eh bien, a montré comment le monde, c'est le divers.
Hein. Oui, c'est le ça, monde, ça nous rapproche à cette idée-là. Oui.
Le monde, ce ne sont pas des catégories, ce ne sont pas des pays. Les divisions sur la planète sont nombreuses. Ce ne sont pas non plus des catégories. D'un côté, il y aurait des personnes handicapées, de l'autre côté, des minorités. Non, c'est pas ça. Le monde, c'est le divers. L'humanité est une foule de singularités. C'est une foule de singularités. Chaque visage étant l'une de ces singularités. Et il a très très bien montré et avec le mot une poétique du divers. Il y a quelque chose de très très beau là, et on voit bien à l'heure où nous sommes, avec le danger de recréation de communautarisme, de fermeture, de particularisme, comment ce sont des pensées essentielles, parce que nous le vivons avec des événements cruels et meurtriers, que le communautarisme et les particularismes sont toujours dangereux et sont une menace particulière que nous vivons actuellement.
Résonance sur Radio B, invention à deux voix, avec l'anthropologue Charles Gardou, ou comment redonner au handicap sa dignité par la pensée. Alors pour poursuivre un petit peu notre échange, Charles Gardou, je voudrais aussi que, là on a cité le rapport, le cadre général, et justement aussi que ces singularités appartiennent à ce monde universel, justement, et non pas... Et étant une particularité, et on évoquait que les particularismes, ô combien sont dangereux justement par rapport à cette idée-là. Et je voudrais qu'on approfondisse aussi encore un petit peu plus pour se rapprocher de l'individu. Vous évoquiez justement tout à l'heure que il vous avait semblé essentiel de partir de ceux qui vivent justement au quotidien cette chose-là. Et je voudrais vous citer en disant ceci que le handicap ne touche pas uniquement le corps ou l'esprit. Il affecte la liberté de la personne. Être en situation de handicap, c'est encourir la menace d'être déterminé par sa seule blessure. C'est être soumis par cette blessure même et par les manières dont on est considéré à des formes de captivité et d'asservissement. Fin de citation. C'est-à-dire que la manière dont on est pensé, donc comment l'organisation, le fonctionnement de notre société, l'étiquette dont on nous affuble ou dont on affuble la personne en situation de handicap de par sa différence, de par son anormalité, provoque des cloisonnements, des enfermements, installe des territoires séparés, des enclaves, et du coup empêche ces personnes de participer véritablement à la vie de la cité. Et donc du coup, c'est le déploiement propre du chemin de vie, finalement, de l'individu qui se trouve soit bloqué, soit retenu. En tout cas, on ne lui permet pas de pouvoir faire en sorte qu'il le déploie. Est-ce qu'on ne, finalement, on ne contribue pas à faire que ces personnes puissent aller à la recherche de qui suis-je, où suis-je, quand je suis? Et c'est du coup un enfait majeur où là, on touche directement, finalement, à la liberté propre de l'individu.
Là, vous abordez effectivement un thème important, c'est le thème de la liberté.
Oui.
La grande Simone Veil, le philosophe, disait « Tout être est né pour la liberté ». Il y a là un événement à la naissance, oui, ou en cours de vie qui vient faire entrave à cette liberté. Cette liberté que nous voulons tous,
tout à fait,
que nous désirons tous. Et je pense que, et c'est ce que j'ai essayé de faire, il ne faut pas simplement expliquer quand il s'agit de handicap, tant il y a de choses à comprendre si l'on est attentif à ce que j'appelle les experts de l'intérieur. C'est-à-dire, au sens premier du terme, expert, c'est celui qui éprouve,
oui,
qui fait l'expérience d'eux. Et ces experts de l'intérieur, ceux qui vivent, les personnes elles-mêmes, les proches, nous disent qu'elle bute sur deux obstacles. Bien évidemment, l'obstacle lié à une déficience sensorielle, physique, psychique, etc. Malheureusement, elles sont nombreuses. Et également des obstacles exogènes. Hein. C'est les obstacles d'une société.
Une société comme elle s'organise par rapport à eux.
Pensée pour et par une humanité normée, moyenne. Qu'en est-il à l'échelle du monde? Ça, c'est important, ça permet d'objectiver.
Oui.
Le premier rapport mondial sur le handicap, qui a été rendu public à New York en juin 2015, indiquait alors, il y avait 7 milliards d'habitants à cette date-là, aujourd'hui nous sommes à 7,4, hein, que sur ces 7 milliards d'habitants, 1 milliard d'entre eux vivaient le handicap au quotidien. Un milliard d'entre eux. Vous voyez, ça situe les choses.
Totalement.
Et quantitativement. Ce n'est donc pas une petite population d'ordre homéopathique qui circule sur le trottoir d'en face.
Absolument.
Ce n'est pas non plus une population qui voyage sur la bretelle d'autoroute sur laquelle on ne va pas. Non. C'est au cœur de l'humanité. 1 sur 7. Si on ajoute, puisque la question du handicap n'est pas qu'un événement individuel. Il,
tout à fait.
Effectivement, il touche aussi un entourage, les accompagnants, les proches, etc. On le sait. Eh bien, si on relie à cette personne-là touchée directement ses parents, la fratrie, les compagnes, les compagnons, ça fait quasiment un tiers de l'humanité.
Oui, donc là, c'est énorme aussi.
C'est énorme. Et que dit le rapport au-delà de l'aspect quantitatif? On ne peut pas s'en tenir à la mathématique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce sont des personnes qui se voient privées de liberté fondamentale, sous-entendée de droits essentiels, à tous les moments de leur vie. Hein, et que ce sont des personnes qui, dans ces phénomènes de privation de liberté, et aussi de privation de patrimoine commun, de biens communs, se voient entravées dans l'accès à l'éducation.
Oui.
Vous imaginez aisément, nous imaginons aisément, les retentissements sur l'accès à une vie professionnelle.
Totalement.
Se voit entravé dans l'accès aux soins.
Tout à fait.
Montrant que, double peine, les personnes qui ont davantage besoin de soins sur le corps, etc., leur esprit, sont plus mal soignées que les autres, etc., etc. Et donc, il y a là le constat que nous n'aimons pas entendre.
Mais qu'il nous faut entendre.
Qu'il nous faut entendre. Moi, je prends pour partie, je n'essaie pas de noircir les situations pour impressionner.
Bien sûr.
C'est pas ça la question.
Et puis, c'est pas le propos.
C'est pas le propos. C'est qu'y a-t-il comme réalité objective et objectivante? C'est ce rapport OMS, Banque mondiale, co-signé par les deux, qui a été travaillé sur les 4 dernières décennies et qui montre cela. qui montre cela.
Et là, c'est
qui
majeur, montre cette réalité.
C'est majeur. Du coup, Ban Ki-moon avait cru bon de convoquer une réunion spécifique sur cette question.
Sujet, alors, bien sûr.
Comment le traduire ? Sommes-nous devenus tout d'un coup humanistes ? Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée, est-ce qu'on peut laisser sur le bord de la route autant 1 milliard d'humains ?
C'est
comment
ça.
Les économies vont les porter ? C'était la question qui s'était posée après la guerre.
De fait, de ce grand séisme qui a été la guerre, et du coup, il a bien fallu aussi se poser ces questions. Elle s'imposait de manière, là aussi, majeure.
Elle s'imposait. Alors, voyez, cette question de la liberté de se réaliser, de forme d'asservissement, parce que, nonobstant la Déclaration universelle des droits de l'homme, on se rend compte que la protection est défaillante sur les plus fragiles d'entre nous. C'est une question vive de nos sociétés. Comment nos sociétés, puisque vous avez bien voulu appuyer, participer à l'initiative que j'ai prise pour la reconnaissance du drame qu'ont vécu les personnes fragilisées par la maladie ou le handicap durant l'occupation, et vous avez été un soutien précieux à cela, qui nous a mené jusqu'au geste mémoriel du 10 décembre dernier
au Trocadéro,
par le président de la République. Là aussi, c'était l'idée. C'est pas simplement faire du passéisme.
Bien sûr.
C'est dire que l'humanité telle que nous appartenons à une espèce humaine. Cette espèce humaine, elle est toujours tentée de marginaliser les plus fragiles d'entre elles. Il y a toujours une sorte de réémergence de phénomènes de darwinisme social. La société au plus fort. Et les autres finissent par être pensés comme des encombrants. C'est ainsi qu'on les a laissés mourir dans les lieux
dans
qui
les
devaient
lieux.
Les accueillir.
Absolument.
Pour 45, peut-être plus d'entre eux, pendant les sombres périodes de l'occupation. C'est toujours, c'est toujours possible. Et on le voit bien dans ce que nous vivons aujourd'hui.
Absolument.
Que ça ressurgisse.
Ça peut ressurgir de manière très forte et très violente, justement. Hein.
Donc cette question des droits, cette question de la liberté, c'est ce qui m'a amené à écrire ce que vous avez cité tout à l'heure, eh bien, elle se fait plus aiguë encore quand il s'agit de personnes en situation de handicap.
Et oui, puisque pour chacun, si on permet pas, je reprends aussi un petit peu autour de l'idée de la liberté. La liberté, c'est être prêt. Être prêt veut dire être entraîné et être ouvert. L'acquis est l'instinct, la règle est la liberté. Et c'est donner aussi accès à ça. Ou pour revenir aussi sur ce que vous disiez à ce propos-là tout à l'heure, il y a quelques instants, et je citerai juste Paul Valéry sur la question de la liberté. Comment pouvons-nous faire un acte qui nous coûte ? Complètement est acteur de cette... On voit que c'est là aussi quelque chose d'essentiel et comment on va permettre justement à chacun de ces individus mis sur le côté, effectivement encore aujourd'hui, parmi ce 1 milliard d'habitants sur notre planète, là aussi cet espace de liberté et de marquer comme quoi ils existent aussi au travers de ça et qu'on ne peut pas faire fi de... Et on sent bien que les particularismes aujourd'hui sont tellement fortement, et là, l'étranger, le migrant, sont aussi un peu plus... On parle moins de la personne handicapée, mais ça retraduit bien aussi ce sous-jacent non travaillé, finalement. On pourrait dire aussi qu'évoquer le migrant aujourd'hui, c'est montrer peut-être la grande faiblesse qu'on a encore vis-à-vis de la personne singulière qu'est la personne handicapée dans notre propre fonctionnement. Là, on pourrait parler de miroir, là aussi également encore, de révélateur, finalement, puissant. Mais qui renvoie aussi, on le voit de manière très forte aujourd'hui, à la réaffirmation de particularismes qui du coup vont à l'inverse de ce que nous venons d'essayer de dépeindre. En tout cas, vous dépeignez la situation de manière très objective, sans noircir effectivement les choses, mais on sent bien qu'on est sur une ligne de fracture aussi très, en tout cas là aussi sur une ligne très fragile vis-à-vis de ces questions-là.
Je crois que cette question du handicap est une question qui nous trouble. C'est une question qui nous trouble. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, elle révèle les fonctionnements et dysfonctionnements d'une société. Et ce que l'on constate autour de nous, c'est que nous vivons une réalité sociale très ambiguë et très plus que paradoxale. Je dis bien ambigu. Pourquoi ambigu ? Parce que c'est une période qui prône l'égalité et à grand bruit et qui en même temps, de manière implicite, souterraine, hiérarchise les vies à partir de leur productivité et de leur rentabilité. On jauge les vies. ces vies valent-elles vraiment le coup d'être vécues ? C'est une question qui, là aussi, a traversé nombre de périodes de notre histoire. C'est un temps qui est très ambigu aussi, parce que c'est un temps qui affirme respecter les fragilités qui sont les nôtres et qui, en même temps, les marginalise. Et on voit bien que c'est un temps qui se perd dans la tentation de ce que Dominique Schnapper a appelé la tentation de l'illimité. C'est un temps où les idéaux de puissance s'affirment. Il faut parler haut, il faut parler fort, il faut être toujours à la norme, cacher les premières rides, l'âge est mal toléré, l'immanence de la mort à la vie n'est pas acceptée.
La mort aussi n'est pas acceptée, effectivement.
Et on voit comment des courants de pensée naissent de ces ambiguïtés du temps. Ce qu'on appelle le transhumanisme ou le posthumanisme, eh bien, c'est ce courant qui rêve d'un homme zéro défaut. Un homme zéro défaut. Toute défaillance dans le corps humain serait remplacée par les technologies, les robotiques, etc. Et du coup, on rêve de la mort de la mort. C'est-à-dire, on rêve de l'homme éternel.
C'est ça.
Ça pose...
Ça, c'est déjà un premier problème.
C'est un vrai problème. Alors, quelle place peuvent trouver dans ce monde-là
la personne en situation de handicap ou les personnes un peu singulières de par les actes que la vie leur a donné.
Et voyez, quand je disais tout à l'heure, on ne peut pas simplement expliquer les choses. Il faut comprendre. C'est-à-dire, ça c'est une définition.
Oui, l'explication n'est qu'une chose. La tout compréhension est essentielle.
Et tout, si vous voulez, dilter, ça c'est fondamental dans les sciences humaines, faisait la différence entre expliquer, qui suppose, comme le préfixe l'indique, une position d'extériorité et comprendre, cum, prendre, c'est prendre avec soi. C'est autre chose.
C'est totalement autre
chose. C'est autre chose. Et on voit comment des personnes aujourd'hui en situation de fragilité, liées au handicap ou autre, souffrent dans la société, eh bien, tout simplement, de ne pas être à la toise, de ne pas être à la norme. Hein, j'ai souvenir de ces journées mondiales de la trisomie 21 à Paris où j'intervenais, où une maman dit, vous savez, ce n'est pas facile aujourd'hui d'avoir un enfant atteint de trisomie 21, du syndrome de Down, parce que on ne les laisse pas naître. Et on me regarde parfois et on me dit, mais pourquoi vous n'avez pas interrompu votre grossesse? Pourquoi vous avez fait choix? Assumez-le maintenant, madame. Comme, il y a là comme une sorte de reproche.
Le reproche qui est formulé de
manière... Pourquoi vous avez laissé vivre une vie imparfaite ? Il me semble, et on va s'accorder tous deux là-dessus, qu'on ne mesure pas là où on est, et c'est toujours impossible à faire, les résonances multiples d'une société, d'un fonctionnement social sur les plus vulnérables d'entre nous. On ne le mesure jamais pleinement. On peut l'expliquer, mais on a du mal à le prendre avec soi. Comprendre la galère de parents qui se voient refuser dans des lieux différents, de personnes. Je pense par exemple à l'inaccessibilité de nombre de cinémas.
Absolument.
Hein, accessibilité pas simplement physique, mais aussi sensorielle. Et je me dis, mais... Là, on le constate, on le chiffre, mais le comprendre. C'est-à-dire arriver sur la porte d'un cinéma et se voir refuser l'accès à ce qui est de l'ordre du patrimoine commun.
Absolument, et là qui est un bien commun.
Qui est un bien commun. Alors, vous voyez, on est dans ce paradoxe-là. Alors, je pourrais ajouter pour terminer qu'on parle très volontiers d'accompagnement, c'est un terme qui fait florès, qui s'est déployé dans tous les sens, et très bien ainsi, c'est un terme qui fait sens. Hein. Accompagner, c'est partager le pain, initialement. Et en même temps, ce qu'on constate, c'est que les plus fragiles, dont les personnes en situation de handicap, eh bien, vivent de plus en plus avec ce sentiment de délaissement. L'impression qu'ils sont des encombrants dans cette société-là, qui va vite,
qui va très vite,
et qui est corrosive, qui est exigeante. Vous voyez, alors, on a des mouvements comme ça, ambivalents, dont on ne mesure pas la portée et l'impact sur ces vies-là.
Résonance sur Radio B, invention à deux voix avec l'anthropologue Charles Gardou, ou comment redonner au handicap sa dignité par la pensée. Aujourd'hui, nous sommes dans Entretien à deux voix et nous venons d'entendre Palabre, extrait de l'album L'imparfait des langues, composé de par Louis Clavis, interprété par Marc Baron, saxophone alto, Louis Clavis, saxophone soprano, Paul Brousseau, electronic sampling, Kate Board, Maxime Delpierre, guitare, François Merville, merveilleux aussi, aux percussions et aux drums. Et nous avions entendu tout à l'heure aussi également, pour rester dans nos écoutes et nos rebonds tout au long de cet entretien, nous avions fait un détour aussi par la musique du Burundi et les percussionnistes du Burundi qui nous avaient entraînés aussi dans leur forme de palabre. Alors je voudrais, parce que notre entretien avance aussi dans le temps, dans notre temporalité, tellement aussi ce moment est riche aussi dans l'échange, mais je voudrais, Charles Gardou, peut-être dans le temps qui nous reste dans cette fin d'émission, bien sûr, quand on évoque aussi ces publics singuliers, en fragilité, d'autres termes arrivent beaucoup dans notre langage, dans le langage des professionnels et de tout un chacun. Mais on entend parler de différence, on entend parler d'intégration, on utilise le mot inclusion. Souvent, quelquefois, on a du mal. Alors, je passe en plus sur les termes empêchés, etc. Mais je m'attarderai plus sur ces termes-là. Seriez-vous d'accord aussi, quelque part, si l'on pouvait dire que quelquefois employer le terme différent spécifie finalement, particularise également, et bien sûr dire qu'on tient compte des différences et autres, c'est pas forcément dire que là on est avec l'autre ou qu'on laisse la place, mais c'est encore peut-être une fois de différencier, de mettre un peu à part ou on le disait tout à l'heure, un peu de catégoriser aussi. Et peut-être qu'on fasse un petit peu le point, selon votre point de vue, entre différence, intégration, qui est encore un autre terme, et aussi, alors un terme qui vous est aussi cher, inclusion, qui est d'une autre nature.
Alors, votre question est très très pertinente, parce que j'ai coutume de dire que les mots ont une philosophie. Les mots orientent l'action, et donc ils sont importants. C'est pas simplement de l'ordre d'une coquetterie rhétorique, c'est beaucoup plus puissant que ça, ça symbolise, et c'est aussi notre expression humaine. Donc moi je n'utilise plus le terme différence, s'agissant du handicap. Il me semble effectivement, vous l'avez évoqué, que c'est un terme qui contribue à segmenter. Quand on dit ce sont des personnes différentes, on les met à distance.
C'est ça. Hein? C'est de la mise à distance immédiate.
C'est de la mise à distance immédiate. Effectivement, on verse vers, très rapidement, vers un effet classification, catégorisation qui nous guette sans cesse dans le champ qui nous préoccupe. Il est beaucoup plus intéressant de parler de singularité. Nous sommes tous des êtres singuliers.
C'est ça. Des gens. Et on rejoint l'universel qu'on évoquait tout à l'heure.
Tout à fait. Kierkegaard avait fondé toute son œuvre sur cette notion de singularité et il disait, je veux que sur ma tombe soit écrite, il fut le singulier. Bien avant lui, un philosophe théologien écossais, Duns Scott, disait, il n'y a qu'une vérité quand il s'agit des humains. Cet homme-là, cet enfant-là, cette femme-là. C'est-à-dire, c'est un visage singulier. Nous ne sommes pas des photocopies conformes à un exemplaire qui serait reproduit, etc. Non, c'est pas ça. Chacun est une singularité. Les personnes qui vivent une situation de handicap, qui n'ont pas été préservées par naissance ou par vie de cette fragilité, sont aussi des êtres singuliers, comme tous et comme chacun. Et ce qu'il nous faut bien comprendre, et c'est paradoxal, c'est que derrière chaque singulier, eh bien, il y a une expression de l'universel. Alors c'est du ça. Coup, si on part de cela, on cesse de dire ce sont des gens différents. Non,
bien sûr.
Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas deux humanités. Il n'y en a pas une à l'endroit et l'autre à l'envers.
C'est ça.
Il n'y en a pas une qui serait éminente et l'autre insignifiante. Nous sommes les mêmes. Nous sommes inscrits dans des vies qui oscillent entre accablement et redressement, entre fléchissement et résistance, entre chaos et ordre. Nous sommes les mêmes. Voilà, c'est ça l'idée.
Ça, ça et à partir
de ça, c'est fondamental. Et à partir de là, et là aussi, ce n'est pas une morale. Les morales ne s'entendent pas. C'est un constat. C'est un constat
de postulat
de notre commune condition humaine. Un jour mieux, le lendemain pire.
Pire.
C'est comme cela. Et donc, il n'y a pas là non plus des gens forts d'un côté qui seraient préservés du handicap et des gens faibles qui sont non. La force n'est pas là. Il y a des fragilités qui deviennent force. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut et qui manquent singulièrement de force. Le handicap n'est pas non plus un signe d'absence de grandeur et de petitesse. Il y a des gens qui se gaussent de leur grandeur, qui ont tout, semble-t-il, leur potentiel du corps et de l'esprit, et qui manquent singulièrement de grandeur.
Absolument.
De grandeur. C'est une autre manière de penser les choses, qui est une manière beaucoup plus unifiante. Alors moi, je n'utilise pas du tout le terme inclusion. Pourquoi ? Je n'utilise plus du tout. Parce que c'est pour moi un terme qui ne fait pas sens.
C'est ça.
Partant de là, chaque être humain est une singularité, rassemblée à l'universel, et toute personne singulière, quand elle advient au monde, est héritière de ce que notre société a de plus noble et de meilleur. Par héritage. Il n'y a personne qui naît hors de cela, hors de cet héritage. Donc, il ne nous appartient pas de manière condescendante, d'inclure des personnes, ce qui laisserait supposer qu'ils sont dehors.
Ça voudrait dire qu'ils sont dehors, absolument.
Ils sont dedans.
Ils le sont bien dedans, effectivement.
Il nous appartient donc de travailler notre société pour qu'elle devienne un chez-soi pour tous.
C'est comme dit Jean-Luc Nancy, le philosophe, il dit, on parle du être ensemble, mais il dit, il n'y a aucune raison de parler du être ensemble, parce que nous sommes déjà ensemble.
Tout à fait.
Et là, c'est un contrepoint, mais qui vient totalement aller dans le sens de votre propos.
Beaucoup d'estime pour ce philosophe-là, c'est beau livre, singulier pluriel. Et donc, il le montre bien. Donc, penser une société inclusive, des lieux d'art, de culture inclusive, une école inclusive, c'est travailler ces lieux pour qu'ils deviennent chez soi pour tous. C'est pas inclure, parce que dans la dimension d'inclure, il y a le latin includere, qui veut dire mettre dedans, et qui plus est enfermer. C'est ainsi que dans l'art dentaire, on va parler d'une inclusion dentaire quand une dent est prise dans l'arcade osseuse. Et on veut pas ça. On veut pas mettre dedans et enfermer. On veut travailler la maison.
C'est ça.
Et j'oppose terme à terme pour que ça se comprenne bien le terme inclusif à exclusif.
Oui, inclusif, exclusif. Immédiatement, l'opposition des deux.
Nous prenions tout à l'heure l'exemple de lieux d'art et de culture qui vous sont chers et où les gens ne peuvent pas profiter de ce patrimoine-là. Eh bien, ce sont des lieux qui ont maintenu des exclusivités.
Absolument.
En faire des lieux inclusifs, c'est comment on va les travailler, comment on va les rendre accessibles, comment on va recréer une liberté pour tous et pour chacun. Eh bien, ça, c'est autre chose. Donc, pour moi, société inclusive, ça s'oppose à société exclusive. Comme le disait si bien Simone de Beauvoir, le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue.
Exactement.
Et dans ce qui est scandaleux, c'est qu'on finit par s'habituer à des lieux qui sont des privilèges, des exclusivités pour ceux qui ont la chance
de pouvoir
d'entrer, d'entendre, de voir. C'est pas ça une société inclusive. Donc, c'est pas polémique le terme, mais le mot exclusivité, c'est privilège. Une exclusivité,
c'est un privilège.
Et comment une société aujourd'hui doit ouvrir les yeux, c'est un peu le sens du livre que j'ai pu faire là-dessus. Moi aussi, j'avais besoin de bien le comprendre, de bien le problématiser.
De poser effectivement les choses très précisément.
Ça. La société inclusive, et j'ai mis le sous-titre qui m'est très cher, il n'y a pas de vie minuscule. Parce qu'on finit par croire qu'il y a des petites vies.
Oui.
Et que ces petites vies, on peut les enfermer, on peut les traiter de manière différente, on peut les priver de vie affective, de vie artistique, de vie sportive. Non, nous sommes les mêmes. Et il n'y a pas des êtres de besoin d'un côté qui ne seraient que des êtres de besoin. Chaque être a des besoins qui lui sont vitaux, mais il a aussi des désirs, il a aussi des projets. Et réfléchissons à cela, hein, ce qui nous fait exister, vous et moi, c'est pas simplement la réponse à des besoins. C'est tout autre chose. Ce qui nous fait exister, c'est l'expression de désir, c'est l'expression de projet, c'est l'expression de passion, c'est l'expression de rêve.
De rêve.
Voilà. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très fort. On n'a pas fait tout le travail quand on a répondu en termes d'allocation, d'alimentation, de soins. Non, c'est autre chose. Ça, c'est de l'autoconservation. Mais les plus fragiles ont aussi besoin de cette dimension. Victor Hugo avait cette très belle expression sur la question du besoin de la vie et de l'existence. On vit finalement par des réponses à, mais finalement on existe par un idéal, par des passions.
Merci Charles Gardou pour cette passionnante et vivifiante conversation. Cette émission de Résonance sera diffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez bien sûr réécouter quand vous le souhaitez et où vous voulez, aussi longtemps que vous désirez, la présente émission ainsi que les précédentes en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine www.résonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. À très vite sur Radio B.